at the knee.
I used to be an adventurer like you, and I took an arrow in the knee.
That loser didn't stand a chance!
You were almost a jibbled sandwich.
Hey, listen!
Heroes never die.
Caught one.
The edge of the universe and back. Endure and survive.
Killing you and giving you good advice aren't
nothing is true. Everything is permitted.
Do a barrel roll.
Oh, cool, you tie.
Well, this is a tomb. I'll make them feel at home.
This is my favorite store in the Citadel.
Objection!
This world is mine.
What did I say?
Wait. That's not how it happened.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Une heure et des pixels, une émission réalisée et produite par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, c'est la rentrée pour nous et nous sommes en compagnie d'Anna et Tizona qui nous font le plaisir de continuer avec nous et de Gomezia et Maxime qui nous rejoignent pour cette nouvelle saison. Bienvenue à vous deux. Comment vous allez tout le monde ?
Super bien.
Salut, merci, oui, ça va bien. C'est un plaisir de vous rejoindre.
Et bah, plaisir partagé.
Et ouais, pareil, carrément.
Super. Et ben, j'ai hâte de voir tout ce qui va nous arriver cette saison. Et pour commencer, du coup, cette septième saison, nous recevons Marion Myun Schneider, vocaliste et parolière pour OST de jeux vidéo. Elle a beaucoup enregistré pour la franchise Temtem du studio espagnol Crema et elle travaille actuellement sur le jeu Edge of Memories, développé par le studio français Midgar et édité par Nakon, avec une sortie prévue en 2026. Comment tu vas ?
Mais ça va très bien, merci de me recevoir.
Eh bien, c'est avec grand plaisir. Pour commencer, je donne la parole à Tizona qui va nous parler de l'hypocrisie capitaliste, ami et ennemi de l'accessibilité du jeu vidéo.
Tout à fait. Désolée, ça commence un petit peu de manière pas très optimiste. C'est la rentrée, hein, donc c'est un petit peu l'humeur, on est plutôt à la grimace, un peu comme tout le monde. Quitte à choisir, j'ai profité un petit peu de râler aujourd'hui. C'est souvent le cas quand je fais des recherches sur mes chroniques, ça touche à des sujets sociaux et ça rend rapidement en colère. C'est vrai que j'ai surtout essayé au fil des dernières chroniques, tant que faire se peut, de présenter souvent différentes innovations liées à l'accessibilité. Il s'agit très souvent de projets qui sont financés ou du moins initiés par des grandes entreprises qui ont des moyens, qui ont assez de moyens pour développer des projets denses, voire même des fois des départements entiers dédiés à la recherche et au développement liés aux questions d'accessibilité. Mais évidemment, à titre personnel, moi je regrette de pas donner une telle visibilité à d'autres personnes qui sont pas aussi visibles que ces géants. Et pour qui il y a des initiatives qui sont plus petites mais très sincères et modestes. Mais d'un point de vue réaliste, il faut admettre que seules d'aussi grosses entités, ça pourrait être des gouvernements, mais on va plutôt les oublier vu qu'ils oublient aussi que ça existe. Donc que ces entités elles peuvent se permettre de sortir d'aussi gros billets pour avancer sur des projets aussi importants et gourmands financièrement. Alors, des progrès, ça reste que des progrès, hein, c'est sûr. Naughty Dog, oui, c'est le studio vitrine de Sony ou encore Ubisoft. Ça a été des raz-de-marée dans la polyvalence des options d'accessibilité qu'ils ont proposées dans leurs jeux depuis ces dernières années. Oui, comme je l'ai dit il y a quelques mois, avec la Accessible Games Initiative, les constructeurs et d'énormes studios ont été capables d'outrepasser leurs différends au service d'une cause a priori juste, même si ça ressemble quand même aussi à une jolie photo publicitaire. Oui, Microsoft a été le constructeur qui a proposé en premier un contrôleur adaptatif aux très nombreuses options personnalisables, ce qui a créé un outil d'accessibilité majeur il y a quelques années. Mais au bout d'un moment, c'est assez difficile de rester impassible devant les prises de position sociales, politiques, d'entreprises multimilliardaires qui soutiennent des lobbies ou de manière plus spécifique et grave, par exemple des génocides. Je pense que j'en ai assez personnellement de ce double discours qui se prétend social, inclusif, sur des flyers, lors des séquences qui passent en boucle lors des Game Awards, de ce discours qui paraît finalement plus double que ça quand il est accompagné par des actions telles que des financements assez honteux, de la censure et des licenciements ciblés. Par exemple, donc de manière très récente, ça date d'il y a quelques jours, le studio Sucker Punch, qui va sortir d'ici peu donc Ghost of Yotei, a jeté à la porte l'artiste Lou Harrison, qui travaillait sur le jeu parce qu'il avait osé faire un tweet qui n'a pas plu au sujet de la mort de Charlie Kirk. Donc, un peu plus localement, l'éditeur français Dear Villagers s'est attaqué publiquement aux devs de Caravan Sandwich, un jeu qu'ils ont accessoirement édité, sans avoir pour autant soutenu le studio à la sortie du jeu, qui avait subi des vagues de harcèlement transphobe et homophobe. Donc voilà, on est un petit peu sur deux salles d'ambiance. Et donc bon, là je parle d'individus ou de petites équipes. Mais on a également le cas d'un tweet de Bethesda avec un extrait du dernier jeu d'Indiana Jones qui dénonçait le nazisme, hein, ce que fait l'univers en général, c'est pas nouveau. Et ce post a été supprimé peu de temps après car ça coïncidait un peu trop avec le timing de l'actualité autour de Kirk. Donc on le sait, on cesse de le rappeler, le capitalisme il est à l'origine de bien des maux, c'est pas propre aux jeux vidéo mais ça n'en fait pas défaut. Et bah, j'avoue que depuis ces derniers mois j'ai l'impression qu'on est à un point qui est assez de non-retour. Bizarrement ça se ressent aussi niveau actualité liée au handicap dans le jeu vidéo parce que j'ai quand même un peu moins de trucs à dire que par le passé niveau actualité. Serait-ce à cause du licenciement d'énormes tranches de personnel dans des pôles dédiés à l'inclusion quand c'est pas les pôles eux-mêmes qui sont supprimés. Donc au sein d'entreprises américaines se pliant, enfin américano-autres, hein, se pliant sans mal à des tendances politiques un peu dérivant vers l'extrême droite. Je ne sais pas, c'est peut-être une pure coïncidence. Hein. Ah bah l'accessibilité, ça fait joli, c'est primordial, évidemment. Mais quand on voit des entreprises contribuer, voire financer des entités, des gouvernements dans des mesures de politique meurtrière, bah c'est quand même très loin de l'humanité, de l'acceptation qu'elles clament porter par leur marque, par leur label, par leur jeu. Et ça donne aussi surtout une bonne odeur rance d'hypocrisie et de contradiction. Bah, je parle surtout, enfin, pas que, mais surtout de Microsoft, hein, qui... en août, a donné sciemment accès à ses serveurs cloud à l'armée israélienne pour réaliser et stocker de la surveillance d'appels téléphoniques Gazaoui et Cisjordanien, et qui, très lestement, a licencié à la volée 4 employés qui avaient osé protester contre cette mesure. Donc, parler de l'humain et de ses différences, bah, c'est bien, c'est important, ça fait joli, mais l'illusion de la bienveillance, elle se brise quand même très vite quand les ficelles là-haut, elles sont tirées. Alors, pour autant, est-ce que j'arrêterai de parler des actualités qui sont liées à ces personnes qui sont finalement assez complices? C'est difficile de se prononcer parce que malgré tout, il y a quand même beaucoup d'actualités qui, comme je l'ai dit, émanent de ces géants. Chaque progrès est toujours un progrès qui est profitable, encore plus quand il est pensé par et pour des gens concernés. Derrière ces géants, il y a toujours des gens qui se battent, je le pense sincèrement, qui exploitent le peu de moyens qui puissent leur être encore accordés. On sait que dans pas mal de domaines, on est souvent obligé de serrer des mains qu'on n'a pas forcément envie de serrer car y a besoin de survivre, il y a besoin de manger. Et le jeu vidéo n'y fait vraiment, mais vraiment pas défaut. Mais ça reste d'autant plus complexe qu'il est difficile d'outrepasser ou de boycotter certaines marques ou jeux. Par exemple, le Game Pass est devenu un usage courant. Beaucoup de AAA sont touchés ou influencés de près ou de loin par des politiques d'extrême droite grandissantes. Et ça pose un certain nombre de questions sur comment chacune souhaite se positionner, se responsabiliser par rapport à tout ça. Moi, j'ai pas forcément de réponse universelle à apporter. Et surtout, quand on est en situation de handicap, c'est encore pire parce que ça crée des situations de double peine où ça devient difficile de faire des choix militants lorsque les solutions proposées elles sont malgré tout adaptées à nous. Moi, j'ai surtout peur de mon côté de finalement ne plus avoir le luxe de critiquer cette hypocrisie. Et parce que j'aurais peut-être plus grand-chose à me mettre sous la dent au niveau actualité d'ici les mois à venir, quand je vois les politiques d'inclusivité qui se tarissent, et à quel point ça devient difficile d'exister et de parler de sujets sociaux quand on n'est pas en accord avec les politiques dominantes de ce monde, et ce, eh bien, même quand on est Bethesda, apparemment.
Merci beaucoup pour cette chronique qui, certes, n'est pas des plus gaies, mais vraiment pertinente et nécessaire en ce contexte. Est-ce qu'il y a des réactions ?
Oui, du coup, moi, j'avais vu le communiqué de Dear Villagers et j'avais trouvé ça assez odieux, la pratique un peu courante là du renversement de culpabilité, quoi, comme si du coup c'était au studio, enfin aux membres du studio de Caravan Sandwich de bien rester poli face du coup au meurtre de quelqu'un qui par ailleurs vraiment remet en cause leur existence même. Je trouve que c'était hyper, enfin vraiment hyper déplacé, quoi.
Ça fait surtout que, alors ils ont été les éditeurs de leur jeu, mais ils ne sont pas ou plus affiliés. Donc ça reste quand même un mouvement qui est d'autant plus odieux que de courir derrière un studio qui te doit plus de compte, si ce n'est d'avoir publié ton jeu, mais ils sont plus attachés. Donc théoriquement, ils disent un petit peu ce qu'ils veulent. Donc ça pose quand même des questions d'ingérence par rapport au fonctionnement de ce studio indé.
Par rapport à ce que tu disais justement sur l'abandon, en tout cas oui, l'abandon de l'accessibilité à la fois par les entreprises ou par l'État, ça me fait penser que c'est de plus en plus important malheureusement que le travail fait par des associations, comme en France, on a par exemple l'association Capgame qui fait beaucoup de travail justement pour évaluer l'accessibilité des jeux. Donc ouais, vraiment, plus que jamais, on a besoin du travail associatif, même si évidemment on aimerait que tout le monde s'investisse là-dedans, quoi.
Ça, c'est vraiment certain, hein. Tu parles de Capgame, effectivement, c'est l'association en France peut-être la plus connue, mais il y a beaucoup d'initiatives de personnes en France qui vont bosser sur des contrôleurs très spécifiques, très adaptés, des fois qui font de la commande, et je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. J'ai pas eu l'occasion malheureusement d'en parler en voulant dénoncer, j'ai pas eu l'occasion de parler plus, mais en tout cas c'est aussi une volonté personnelle, c'est voilà, de replacer un peu la lumière sur les gens qui sont vraiment là, qui utilisent leur temps, leurs ressources, même quand il n'y a pas grand-chose pour faire être sur le terrain et vraiment faire avancer les choses. Mais on le sait, ces associations, ces personnes, elles sont pas du tout aidées, malheureusement, financièrement, ni visibilisées.
Merci pour vos réactions. Je vais me permettre du coup de me donner moi-même la parole, car je vais prendre la... Alors je sais pas vous, mais chez moi, depuis, au moins hier soir, c'est le déluge. Un vrai temps de rentrée. Il fait frais, gris, pluvieux. Et autant ça me fait du bien, autant ça me rappelle qu'il va falloir que je me mette à bosser. Parce que ça y est, j'ai enfin commencé ma thèse. Donc plus d'excuses après tant d'attentes, il faut que je m'y mette. Mais je peux pas m'empêcher de penser à l'été, aux vacances, au soleil, au beau temps. Alors pour avoir la sensation de prolonger un petit peu ce sentiment, j'ai décidé de tester la démo d'un jeu qui s'appelle Mafat, qui vient d'un studio indépendant Blue Ramen, qui est basé à La Réunion. Donc c'est un petit cozy game qui s'inscrit dans un schéma assez classique des jeux du même genre. Donc on va retrouver un environnement mignon et coloré, des personnages Animal Crossing-esque, des quêtes type livraison avec des petits puzzles à réaliser, un petit peu comme dans Zelda avec les Korogu. On incarne donc un jeune facteur dans les années 70 qui réalise sa première tournée. C'est inspiré d'un réel facteur de Mafat, donc de cette partie de l'île, qui assurait la distribution du courrier dans un village isolé du reste de l'île de La Réunion. Ce jeu va donc nous conter comment un métier qui, pour nous, est si commun, permet de maintenir clairement le lien social. Donc au travers de ce cozy game, on apprend des bribes de l'histoire de La Réunion et particulièrement de cette région. Elle n'est accessible qu'à pied durant plusieurs jours et ça nécessitait une condition physique importante et ça faisait de ces facteurs des véritables stars locales. Ils sont des livreurs de nouvelles au sein des familles, des cercles d'amis et du coup notre facteur va découvrir cette région pittoresque. Lors de nos tournées, nous aurons l'opportunité de nous émerveiller devant des paysages si originaux que nous ne connaissons pas en métropole, mais surtout nous pourrons découvrir les différentes espèces endémiques qui peuplent ces terres exotiques. On sera accompagné d'un petit appareil photo qui vole à côté de nous un peu comme un familier et qui est habité par l'esprit d'une jeune créole. Notre facteur pourra alors garder de beaux souvenirs de ses expéditions en ajoutant à son album la faune, la flore et les habitants. On reste dans un cozy game assez classique, qui certes ne renouvelle pas du tout son genre, mais par contre hybride son accessibilité pour les joueuses casual, et il permet donc éventuellement une portée peut-être plus grande pour les messages qu'il porte, car il est encore en démo, ils sont encore en train de développer le jeu. En tout cas, c'est, je trouve, une belle manière de valoriser le patrimoine et la culture locale par le biais d'un jeu vidéo. Je trouve ça assez malin. Ça permet de mettre en lumière une région dont, personnellement, j'ignorais l'existence. Et en plus, ces facteurs se prêtent parfaitement à un game design de Cozy Game. L'enjeu de sensibiliser à l'écologie, à protéger ces recoins précieux de la planète, et en même temps de raconter finalement une histoire que, personnellement, j'étais pas du tout éduqué sur l'histoire de la Réunion et particulièrement donc de ce village Mafate. Et ben je trouve ça vraiment intéressant et très mignon. Et ça, c'est vraiment un jeu qui invite à la contemplation, à l'émerveillement. Il y a beaucoup c'est très appuyé sur l'aspect artistique, poétique finalement. Et voilà, je trouve que c'est vraiment le petit cozy game par excellence.
Merci beaucoup pour cette présentation. C'est un petit jeu que je connais bien parce que du coup, je suis réunionnaise et il se trouve que j'étais assez contente qu'on puisse faire un jeu en fait sur l'histoire du facteur de Mafate parce que c'est quelque chose qui est en fait c'est une histoire qui est assez atypique, qui est bien connue et aussi parce que du coup, j'ai eu l'opportunité de randonner du côté de Mafate et ça reste vraiment un endroit assez extraordinaire donc difficile d'y avoir accès sans marcher. On peut en effet ils sont obligés par exemple d'être élitroyés pour tout ce qui est provisions etc. au quotidien. Il y a aussi des enseignants qui viennent spécifiquement du coup pour enseigner aux étudiants du coup qui sont là-bas.
Ah ouais.
Et c'est une histoire qui est assez incroyable. Oui.
Ah ouais,
c'est
ouais.
Vraiment une histoire atypique, on se rend pas compte en fait, c'est vraiment déjà l'île de la Réunion est très loin, c'est
oui,
à 8 km de la France métropolitaine, mais il faut savoir que en plus Mafate c'est au centre de l'île et c'est inaccessible.
Ouais, c'est ce que je voyais que apparemment il y a même des habitants qui n'ont jamais vu la mer en fait.
Ouais.
Tellement
ouais.
c'est enfoncé
oui.
Au plus profond du cœur de l'île, quoi.
Ouais. Ils voient pas du tout la mer, en fait, là où ils sont, alors que c'est... Enfin, sur l'île de la Réunion, du coup, c'est pas très compliqué d'avoir accès à la mer, puisque c'est une île. Mais disons que ça demande tellement, en fait, d'adaptation pour pouvoir sortir, du coup, du village de Mafate et aller directement vers les côtes, qu'en effet, c'est pas simple du tout. Ça reste un des endroits les plus préservés, les plus protégés de l'île. Vraiment un endroit magnifique à visiter, à découvrir. Les gens sont vraiment adorables. Et c'est vrai que c'est pour nous, même nous en tant que du coup réunionnais, réunionnaises, ça reste vraiment une histoire assez fascinante parce que le facteur, du coup, il faisait ce trajet-là tous les jours et c'est plusieurs heures de marche pour vraiment permettre à ces personnes de communiquer avec les eaux, de recevoir ce dont elles avaient besoin. Et c'est à la fois très physique, mais finalement, c'est tellement essentiel en fait pour permettre à chacun d'avoir tout simplement accès aux mêmes choses que tout le monde. Donc voilà, donc je vous invite à découvrir vraiment, en tout cas, Mafate dans la vraie vie, parce que c'est assez...
ça donne envie.
C'est vraiment extraordinaire.
Ouais, puis du coup, je trouvais ça vraiment chouette. Enfin, moi, pour le coup, j'ai totalement découvert ce petit village par le jeu et je trouve ça vraiment extraordinaire et je trouve ça trop cool aussi qu'il y ait un studio réunionnais qui puisse s'emparer de ce genre de questions, de messages à relayer pour le reste du monde. Parce
oui,
que vraiment,
oui,
c'est, enfin, je sais pas, je trouve que c'est trop intéressant de savoir ce genre de choses.
C'est hyper riche et c'est vrai qu'à La Réunion, il y a plein de petites histoires comme ça, même la façon dont l'île, en fait, tout simplement a été créée, toute sa culture, toute la culture culinaire, parce qu'elle vient vraiment d'un mélange, en fait, de personnes issues des cinq coins du monde. Donc, ça vaut vraiment le coup d'être découvert. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas encore joué au petit jeu. Mais j'espère en tout cas qu'on retrouve cette diversité culturelle dans le jeu, justement, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire sur La Réunion. Et c'est la première fois qu'on a un petit studio qui arrive à faire porter un jeu un peu plus loin que justement l'île.
Ouais,
donc,
ouais.
Voilà. Quand moi j'ai quitté La Réunion pour venir faire mes études en métropole, à l'époque il n'y avait pas encore de studio de jeux vidéo, c'est tout nouveau et on faisait partie vraiment des tout premiers à s'intéresser aux jeux vidéo. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance il y a 2 ans de ça justement d'intervenir auprès d'étudiants qui étudiaient le jeu vidéo et j'étais super contente de me dire c'est génial, il y a des personnes qui pourront rester un peu plus longtemps à La Réunion, éventuellement travailler dans ce domaine, éventuellement avoir la chance de participer à la création de jeux sans avoir besoin de
bouger
la mer et de partir très loin. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas.
Et merci à toi pour les précisions. Je crois qu'il y a Gomezia aussi qui souhaitait intervenir.
Ouais, je connais pas très bien du coup, je connais pas le jeu, mais je suis allé jeter un petit coup d'œil justement sur le coin, Mafate, et puis l'histoire du facteur. C'est impressionnant, le relief est volcanique avec des murs de pierre. Ouais, j'imagine que tout le transport de quoi que ce soit là-bas doit être vraiment. Vraiment, je vois, il y a un reportage aussi de France Info, là, je viens de voir. Impressionnant du coup, effectivement, le relief, c'est incroyable quoi. C'est des lames vers le ciel quoi.
Tizona qui dit Death Stranding en mieux.
Grave.
Mais je pense qu'on va tous regarder un documentaire sur Mafate ce soir, hein, à mon avis. Et ben du coup, Gomeza, je te laisse la parole pour prendre la suite pour ta chronique. Et tu vas nous parler, si je ne me trompe pas, des approches écologistes qu'on peut retrouver dans les jeux vidéo.
Exactement. Dans cette chronique, je mélange les écologies et les jeux vidéo, puisqu'on verra comment les écologies se retrouvent dans les jeux vidéo, que ce soit fait exprès ou non, et parfois même sans qu'on s'en rende compte. Donc déjà, je pense que ça vaut le coup de préciser de quoi je vais parler, puisque ce mot écologie, il désigne la science des interactions entre les êtres vivants, entre eux et avec leur milieu. Si vous avez du mal à vous figurer le rapport avec les jeux vidéo, pensez à la façon dont votre Sims va être malheureux si vous n'avez que le lit le moins cher, ou si vous ne parlez à personne. C'est la qualité de son environnement qui lui assure sa survie. Et si vous cherchez par exemple un Pokémon Sabelette, oui je suis vieux, il faut aller le chercher dans son habitat naturel, à savoir Route 4, Route 11 ou Route 23. Mais vous n'en trouverez pas ailleurs, probablement parce que les autres routes ne lui conviennent pas. Ceci dit, ça arrive qu'on précise qu'on parle d'écologie scientifique, parce que aujourd'hui le terme tout seul est passé dans le langage courant, pour désigner des choses un peu différentes, comme par exemple l'écologie politique. Alors l'écologie politique, ça découle du constat de la dégradation des conditions environnementales pour une vie bonne, et ça désigne concrètement l'organisation de notre activité humaine pour y répondre, ou pas. Que ce soit au profit exclusif des humains, comme dans le jeu Valheim, où on aménage son propre territoire, ou que ce soit au bénéfice des autres habitants, comme dans Terranil, où on restaure des terres qu'on a polluées au profit des animaux sauvages. Ça montre bien qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. C'est ce qu'on appelle les courants de l'écologisme. De la même façon que dans Skyrim, on va choisir une classe de personnage. Si j'ai choisi d'être voleuse, peut-être que je vais entrer dans le donjon en crochetant la porte, et puis si je suis barbare, ça va partir en distribution de patates, et puis c'est tout. Et ben, de la même façon, dans l'écologisme, on va pouvoir suivre plusieurs approches. La première, et la plus répandue, c'est l'approche anthropocentrée. Comme son nom l'indique, elle met l'humain au centre des préoccupations. C'est-à-dire que les besoins et les limites de ce qui n'est pas humain sont secondaires, voire négligeables. Et comme toute création témoigne de la culture de laquelle elle est issue, on la retrouve dans énormément de titres, depuis des jeux de gestion où on ratiboise la totalité de la carte le plus vite possible pour ne rien laisser aux autres, jusqu'à la faune sauvage des open world qu'on chasse sans arrêt pour crafter des améliorations. Si on se décentre un peu, on trouve une approche éco-centrée. Ce que cette approche va prendre en considération, c'est la nature pour elle-même. On retrouve cette lecture dans les refrains comme « Sauver la planète » ou les leitmotifs comme « La biodiversité » ou « Le vivant ». Par exemple, on va juger le bon équilibre d'une forêt selon des critères écologiques comme par exemple une population de cerfs qui y vit. Et donc selon cette approche, si on estime que la population est un effectif suffisant, alors c'est pas un problème si quelques-uns meurent, et même si la population est trop importante et qu'on estime qu'elle pourrait modifier l'équilibre de l'écosystème, alors cette approche recommande qu'il faut en tuer un certain nombre. Moi ça me fait tout de suite penser au jeu Lemmings, où on a un quota de Lemmings à sauver, et on va devoir en sacrifier quelques-uns, et c'est comme ça pour sauver le quota. Et c'est ok dans cette façon de voir. Ensuite, à la différence de l'écocentrisme, on a une approche biocentrée qui se concentre sur les vivants, avec leurs caractéristiques communes, être en vie. Ça inclut des animaux, ok, mais aussi les autres règnes qui sont les plantes, les champignons, les protistes, alors ça c'est des unicellulaires avec des noyaux, les bactéries, ça c'est des unicellulaires sans noyaux, et puis les archées, ça c'est un peu différent des bactéries, mais surtout c'est le plus vieux des règnes, vraiment l'early access de la vie sur Terre, quoi. L'approche biocentrée, c'est un peu comme un Nuzlocke Challenge ultime. C'est quand ton Pokémon est mort, bah c'est terminé, t'es dégoûté. C'est la run pacifiste d'Undertale, mais si tu prends un antibiotique, tu perds. Parce que c'est des microbes. C'est pour ça que je tiens à présenter une quatrième approche qu'on appelle l'approche sentiocentrée. Selon une notion importante en éthique morale qui est la sentience, c'est-à-dire la capacité d'éprouver des choses subjectivement et d'avoir des expériences vécues positives ou négatives, comme les émotions, la douleur, le bien-être. Un être sentient, c'est un être qui a un degré variable de conscience. Donc on a les poulpes, les pigeons, les crabes, les humains, les chats, beaucoup d'animaux sont sentients. C'est parce que ce qui leur arrive leur importe, qu'il y ait une nécessité morale de protéger les écosystèmes dont ils dépendent. Alors des jeux qui ont des personnages non humains dépeints comme sentients, il y en a plein, mais c'est parce que ce sont souvent des non-humains anthropomorphes, on leur colle vraiment une écriture d'humain sur un corps non-humain. Pourtant, il y a un jeu qui évite très bien cet écueil, c'est The Last Guardian. On y incarne un enfant qui rencontre Trico, une créature chimérique entre le chat et l'aigle.
Coopérer avec elle donne lieu à quelques frictions, car elle a des envies et des craintes qui sont les siennes, des intérêts propres et des priorités qui ne s'alignent pas nécessairement avec les nôtres. En un mot, Trico est une personne. Mieux. Au début, Trico est effrayé par certains objets et refuse de s'en approcher systématiquement. C'est une règle qu'on apprend, mais qui va être balayée par l'affection qui s'est construite avec l'enfant. Trico est donc une personne qui évolue. Alors, maintenant qu'on les a rendus visibles, vous, vous choisiriez quelle classe ?
Merci beaucoup pour ta chronique. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient réagir ?
Alors, peut-être que j'ai pas tout compris, mais ce que tu as dit, notamment sur les personnages animaux anthropomorphes, ça m'a fait penser au jeu Another Crab Treasure, où tu contrôles un Bernard l'Ermite. Et c'est justement un jeu qui a un propos aussi sur l'écologie, puisqu'on doit ramasser du microplastique, et c'est un peu la monnaie dans le jeu, quoi. Il y a tout un propos justement sur la faune aquatique qui est menacée par la pollution humaine, donc le plastique. Et voilà, c'est juste, ça m'avait pensé à ça, et je sais pas si tu connaissais ce jeu.
Ouais, complètement, je l'ai pas encore testé, mais il est carrément dans ma liste de jeux écologie. Et effectivement, j'ai vraiment l'impression qu'il a un propos autour de ça, effectivement, ouais, donc trop chouette, quoi. J'ai hâte de le faire pour me rendre compte à quel niveau.
Eh bien écoute, je pense qu'on va passer à la suite. Tu as mouché tout le monde, mais tout le monde a appris plein de choses. En tout cas, ouais, j'ai trouvé aussi que c'était super intéressant. Je pense que tout le monde partage également cet avis. On passe à la première pause musicale en écoutant Lagoon Layer, composé par Naoto Kubo pour l'OST de Donkey Kong Bonanza. Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris, et tout de suite, l'entretien avec Marion.
Bonjour Marion, alors, enfin rebonjour.
Rebonjour.
Tu es, comme Calypso l'avait dit en introduction de l'émission, tu es donc chanteuse et parolière. Tu t'es fait notamment connaître sous le pseudonyme Mune sur YouTube en chantant des covers ouais. Françaises de musique de jeux vidéo. Et depuis 2015, on peut t'entendre notamment dans plusieurs bandes-sons de jeux comme Shyness, Temtem ou encore Edge of Eternity. Merci d'avoir accepté notre invitation, j'espère que tu vas bien.
Mais ça va très très bien, comme un dimanche, hein. On est dimanche aujourd'hui, donc ça va bien.
Tout à fait, et bien tant mieux. Eh bien, pour commencer, il va falloir peut-être que tu te creuses un peu la mémoire parce que j'aimerais savoir
Ouais.
comment tu es tombé dans la musique de jeux vidéo. Et en parallèle, justement, est-ce que tu aimais déjà la chanson avant de te passionner pour les jeux vidéo, ou justement, est-ce que c'est les jeux vidéo qui t'ont donné cette envie de poursuivre dans la chanson?
Alors, j'ai toujours aimé chanter, mais à l'époque, c'était plutôt les Spice Girls, hein, tu vois. À l'époque, en 97, par là, c'était plutôt de la pop. Rien à voir avec les jeux vidéo. Par contre, très vite, en fait, j'ai associé un peu tout ça. La musique, ça a toujours été mon kiff. Mon premier coup de cœur, ça a été Mystic Quest sur Game Boy. Je ne sais pas si le plateau y a joué. Là, niveau musical, c'était la claque. Et puis après, il y a eu les Zelda, il y a eu tout ce genre de choses. Et enfin, Final Fantasy VI. Et là, ça a été. Voilà, j'ai vraiment mixé un peu le chant avec le jeu vidéo à partir de ce moment-là, donc début 2000 par là.
Oui, d'accord, je vois. Et d'ailleurs, t'as fait beaucoup de musique de cover justement basées sur les musiques de Final Fantasy. Par exemple, moi, je t'ai découvert il y a très longtemps avec tes premières covers sur Final Fantasy XIII. Donc, c'était il y a peut-être 14 ans, quelque chose comme ça.
Ouh là là, déjà mon Dieu.
Oui. Voilà. Et donc, aussi, tu te présentes comme une transcréatrice parce que tu fais donc des covers en français. Donc, tu traduis entre guillemets des chansons, mais justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que la transcréation et en quoi c'est différent justement de la traduction?
Alors ça, c'est un truc que malheureusement beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre, la différence entre les deux. Et bien souvent, on me dit, quand je fais mes transcréations en français de chansons en japonais ou en anglais, on me dit, mais non, mais en fait, là, c'est pas ça qui est dit. Hein. La phrase, ça veut dire plutôt ça, c'est ça. J'explique que non, en fait. Ouais, vous pouvez faire une traduction littérale, les gars, il n'y a pas de problème, sauf que la transcréation, c'est s'adapter aussi à la musique. C'est qu'on ne peut pas chanter un truc traduit littéralement parce que tu vas pas avoir le bon nombre de syllabes, tu vas pas avoir de rimes, tu vas pas, la prosodie, elle va être dégueu. Et ça, c'est tout le travail de la transcréation. Même chose, il va falloir que tu t'adaptes aussi à ta langue parce que je pense à notamment à l'anglais où on te cale des baby à tout va. Chez eux, ça le fait, hein, il n'y a pas de souci. Tu peux dire baby toutes les deux phrases. En français, on va te dire, ouais, c'est un peu pauvre quand même. Le français, il est un petit peu chiant, on a une langue super nuancée. Et voilà, donc la transcréation, c'est un peu de la localisation de chansons, ni plus ni moins. Après, voilà, la transcréation, ça s'adapte aussi à d'autres médias, mais c'est un petit peu ça l'idée. Faut s'adapter à la musique et aussi bah, à la langue, à ta langue à toi. Voilà.
Oui, et d'ailleurs, ça me fait penser que je réécoutais récemment ta cover du morceau Dust to Dust de Final Fantasy XIII, et
Ouais.
bah, c'est vrai que les paroles sont pas du tout les mêmes que dans la version anglaise. D'ailleurs, les
Non.
paroles de la version anglaise sont très courtes, il n'y a pas beaucoup de paroles, et toi, tu as en fait réécrit ta propre version des paroles, mais du coup, il y a aussi une importance, il faut que tu connaisses le jeu et son histoire, je pense, pour que tu puisses écrire des paroles qui sont pertinentes avec le propos raconté, quoi.
Alors, c'est préférable. Il m'est arrivé de faire des transcréations sur des jeux auxquels je n'avais pas joué. Bon, je me suis souvent bananée, hein, forcément. Il y a des mots que tu prononces mal, tu passes à côté de certains trucs, mais ouais, quand tu joues au jeu, là, vraiment, tu es plongé dedans et là, c'est un kiff parce que tu peux te permettre de mettre un petit peu ta sauce. Le but étant, tu gardes le message général. Le message, il est le même, mais par contre, tu vas un petit peu l'adapter pour que ça sonne bien, quoi, tout simplement.
Ouais, tout à fait. Et ensuite, j'ai vu que tu as étudié la phonologie et la phonétique. Est-ce que, sans trop rentrer dans les détails, parce que c'est peut-être un peu technique, tu peux nous parler justement de ton parcours d'études et comment aujourd'hui tu appliques ces connaissances justement dans ton travail de création et de chant?
Alors, la phonétique et la phonologie, je l'ai appris, j'ai fait un master de linguistique. Enfin, de sciences du langage, mais ça s'y rapproche carrément. Et là-dedans, voilà, on t'apprend un petit peu tous les sons des langues du monde. Tu en découvres pas mal. Et ça, c'est hyper important, notamment quand tu veux chanter dans plusieurs langues. Ça t'apprend à pouvoir t'adapter. Et moi, en fait, ça me sert actuellement, ça me sert. Pour un certain jeu vidéo où on m'a donné des paroles dans une langue totalement fictive. Et j'ai dû créer mes propres règles de prononciation, des inspies des langues du monde. Et du coup, ça m'aide à pour les langues inventées, voilà, tout simplement. Et aussi, si je dois chanter dans une telle ou telle langue vraiment réelle, là, ça m'aide aussi. Et voilà, en fait, c'est tout. Y a pas, c'est pas, on pourrait rentrer dans la technique, mais c'est un petit peu ça. Il y a chaque son à son symbole. Et à partir du moment où tu sais le son que fait tel ou tel symbole, bah, tu peux... a priori, parler, chanter dans n'importe quoi. Voilà, un petit peu.
Ok, je vois. Et justement, comme tu as fait, on va dire, tes premières armes dans la chanson de musique, enfin, surtout en faisant des covers de musique de jeux vidéo, j'avais envie de savoir, qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que tu as chanté pour un jeu, et comment aujourd'hui, le fait que tu sois devenue vraiment chanteuse pour des BO et des bandes-son de jeux vidéo, comment ça a changé ta façon de travailler et de chanter, justement, en travaillant sur des morceaux inédits, cette fois-ci, de ta propre... enfin, en tout cas, des chansons de ta propre création?
Ben, en fait, ça s'est fait plutôt de façon très douce, crescendo. Disons qu'au début, avec ma chaîne YouTube, bah, tu fais des covers, donc ça te fait un peu une vitrine. Les gens te découvrent, etc. Puis il y a certains petits studios qui viennent te voir. Moi, ça a été mon cas en 2014, je crois, où il y a un petit studio qui est venu me voir, bah tiens, on voudrait bien que tu chantes cette chanson-là, que tu l'enregistres. Alors voilà, tu commences à faire de l'original. Bon, moi, j'en avais déjà fait un peu pour moi, mais c'était en dehors de la musique de jeux vidéo. Donc voilà, ça reste des petits projets, pas très ambitieux. Et puis petit à petit, ben, tu finis par avoir des trucs de plus en plus gros. Et là, aujourd'hui, je me dis... j'espère qu'un jour, voilà, je vais avoir la chance de pouvoir faire des concerts sur de la musique de jeux vidéo pour laquelle j'ai vraiment travaillé de façon originale. Ça, ce serait top. Mais est-ce que ça a changé ma façon de... Je sais pas. Un peu. Disons que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je pense à la chanteuse de Expédition 33, à Alice. Elle a fait beaucoup de trucs aussi sur YouTube avant ça. Mais là, elle a été propulsée dans la stratosphère du jeu vidéo à l'échelle internationale. Je pense que elle, ça doit lui faire tout drôle, ouais. Moi, ça va, c'est plus smooth, on va dire.
Oui, ça s'est fait un peu plus progressivement, et t'as eu le temps de voir revenir, quoi. Et justement, on reparlera peut-être un peu d'Expédition 33 plus tard, mais avant ça, j'aurais voulu savoir, est-ce que tu peux nous dire, en quelques mots, je sais pas ce que t'as le droit de nous dire, justement, sur le projet sur lequel tu travailles. On sait que c'est le jeu Edge of Memories qui sortira l'année prochaine. Mais alors déjà, pour quelqu'un qui a fait des covers des musiques de Nier, qu'est-ce que ça te fait de travailler avec Amy Vance?
Je crois que j'ai pleuré quand on m'a annoncé ça, j'ai pleuré. Je me revoyais encore sur ma PS3 à jouer à Nier Gestalt. Et ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Après, Amy, ça reste quelqu'un de très accessible. Elle bosse sur beaucoup de jeux différents, qu'ils soient connus ou pas. D'ailleurs, que ce soit des petits studios ou des gros studios. Donc, j'étais pas non plus surprise qu'elle soit sur un jeu. Ça reste quand même un jeu AA, hein, Edge of Memories, faut pas non plus. C'est plus un jeu indé. Midgar, ils sont maintenant rachetés par Nekon, donc ça reste du jeu AA maintenant. Mais que ça se concrétise, en fait, voilà, c'est incroyable. C'était incroyable. Après, on n'a pas vraiment travaillé, on s'est pas appelé, on n'a pas échangé vraiment de messages, c'est toujours interposé. Mais on chante ensemble, on a enregistré ensemble sur certains morceaux, et c'est juste magique de m'entendre en même temps qu'elle, c'est juste trop bien. Incroyable.
Ouais, je j'imagine bien. Et du coup, c'est quelque chose que tu pensais envisageable un jour? C'est-à-dire qu'à l'époque où tu chantais les musiques de Nier, est-ce que tu imaginais que tu allais chanter aux côtés de la chanteuse attitrée de Nier?
Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Si on me l'avait dit, non. J'aurais dit, c'est mort. Jamais. jamais. Mais comme quoi, voilà, faut jamais dire jamais, justement. Et il y a plein de bonnes choses qui arrivent, en ce sens.
Oui, tout à fait. Et justement, avant, tu parlais de Alice Duport-Percier, qui est donc la chanteuse de Expédition 33. Et bah, comment dire, on voit à travers ce jeu qu'il y a une certaine... vraiment un engouement, je trouve, personnellement, plus en plus fort pour la musique de jeux vidéo. Et notamment, bah là, on a la chance que ce soit de la musique produite en France par des artistes français. Et moi, je voulais savoir ce que ça t'inspirait, est-ce que ça te donnait toi aussi envie, bah, tu en as parlé un peu avant, de faire des concerts, ce genre de choses. Est-ce que toi aussi, ça te donnait envie, voilà, est-ce que ce succès t'inspire, te motive en quelque sorte?
C'est super inspirant dans le sens où j'ai toujours, au-delà du fait que je sois chanteuse, j'ai toujours trouvé que les jeux dans lesquels le chant il a une place prépondérante, j'ai toujours trouvé ça amenait quelque chose en plus, je sais pas, un truc que je peux pas vraiment expliquer, un truc un peu plus organique, je sais pas, ça m'attire tout de suite en fait. Et je trouve ça cool qu'après Nir, maintenant il y a Expédition 33, où là, pour les deux en fait, le chant il est là quoi. Et comme par hasard, ces deux jeux-là, maintenant, ils sont très très connus, ils ont été super appréciés. Et voilà, la musique, elle est maintenant incontournable. Donc, ça m'inspire vraiment de voir qu'en fait, finalement, c'est peut-être pas un hasard, quoi. Peut-être que maintenant, on va peut-être se dire, ah, tiens, le chant, on va peut-être l'utiliser un peu plus. ça serait cool. En tout cas, pour moi, ce serait une bonne nouvelle.
Oui, et d'ailleurs, dans Expédition 33, il y a aussi, je crois, dis-moi si je me trompe, il y a aussi un langage, une langue inventée, comme dans Nir.
Oui,
et toi, ouais, tu disais justement, bon, tu peux peut-être pas nous en dire trop, mais il y a apparemment quelque chose qui s'en rapproche dans Age of Memories. Et tu nous parlais justement du fait que la phonologie, c'était très important pour toi, pour ce genre de création. Et est-ce que tu peux nous parler, c'est quoi le procédé, je sais pas... Comment tu fais pour trouver l'inspiration quand il s'agit de créer des paroles dans un langage imaginaire?
Alors, moi, j'ai pas vraiment créé les paroles. On m'a donné des paroles. Et après, moi, je dis, ces paroles-là, on va les prononcer comme ça. Ça se fait assez naturellement, dans le sens où j'ai un petit peu des infos sur le contexte. La musique aussi, elle a des influences qui peuvent être assez notées. Genre, je sais pas, moi, ça va être plutôt dans un désert ou dans un... Voilà, et donc... Après, je me dis, tiens, ça me rappelle telle ou telle langue. Et dans telle ou telle langue, il y a des sons qui sont quand même très... C'est pas des stéréotypes, mais voilà, on la reconnaît tout de suite grâce à ça. Et c'est ça qui m'aide un petit peu à trouver mes inspis. Donc voilà, ça se fait en fonction du contexte dans lequel la musique va avoir lieu, quoi. Va se retrouver.
Oui, je vois. Et justement, à ce sujet, comment tu vois là, l'évolution de la musique de jeux vidéo, par exemple? C'est un sujet qui fâche un peu, mais tout le monde en parle aujourd'hui un peu avec l'intelligence artificielle. Ouais. Et bon, évidemment, on est tous opposés à ça parce que ça porte un préjudice très important à tous les artistes. Voilà, et toi, est-ce que c'est une crainte à laquelle tu fais face au quotidien? Ou comment tu vois les choses, toi, à l'avenir, pour ton travail, pour ton métier?
Alors oui, l'IA, c'est le mal, on est bien d'accord. Après, je reste quand même rassurée dans le sens où, notamment pour la voix, le chant, tu peux demander à une IA de te pondre un truc, de chanter à la place d'un artiste. Par contre, tu vas manquer de versatilité, si je peux dire. C'est que ton IA, elle va toujours chanter de la même façon. Voilà. Tu vas pas pouvoir lui demander, bah tiens, tu vas me faire un chant un peu plus bulgare, un peu plus nordique, un peu plus... Elle va toujours te faire un truc assez plat, au final. Après, l'IA, bon, malheureusement, je pense que c'est un petit peu... C'est se fourvoyer que de se dire qu'on fera 100 et puis on va se bagarrer et puis ça va tomber à l'eau. Je pense que non. Moi, par contre, l'IA, là où je trouve ça bien... Attention, quand c'est consenti, quand voilà, les logiciels... ils ont eu la permission des artistes et tout d'avoir leur voix, c'est quand le compositeur, par exemple, il a une idée, et plutôt que de t'envoyer une mélodie au piano, il va t'envoyer une intention qu'il a, pour laquelle il a utilisé des voix IA pour te dire, bah là, je voudrais bien un truc assez doux, écoute ce que ça peut donner, ou là, je voudrais bien avoir du staccato, donc des notes qui sont ta, 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 ta. Mais tu le ressens un peu plus, du coup, avec... ça fait comme un modèle, un mock-up, si tu veux. Quand c'est un mock-up, moi, ça ne me pose pas de problème. Et encore une fois, si le VST ou... voilà, si tout est légal. Bah, mais bon, l'IA, je pense que malheureusement, on ne peut pas y échapper, quoi. C'est triste, mais c'est comme ça.
Mais surtout que le sujet de la légalité des données sur lesquelles sont entraînées les IA génératives, personne n'est vraiment sûr que tout se fasse dans les règles... les règles du droit et, voilà, et du respect de la propriété intellectuelle. Donc ouais, un peu compliqué.
Après, t'as des librairies qui sont des librairies de VST qui sont, j'imagine, qui sont faites quand même dans le respect de toutes ces choses-là, quoi.
Oui, c'est vrai. Et quand tu bosses sur des BO de jeux vidéo,
mm-hmm.
est-ce que, bah, déjà, est-ce que tu as le droit d'en parler, mais comment tu es rémunéré? Est-ce que tu es rémunéré en salaire ou c'est après tu touches des royalties sur les écoutes faites des musiques pour lesquelles tu as chanté? C'est une question un peu technique comme ça, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, donc si tu as envie de répondre.
Ouais, ouais. Non, non, mais je peux te répondre. C'est quand même assez rare que tu, en tant que chanteur de bande-son, c'est rare que tu touches des royalties. En général, tu vas facturer soit au projet, soit à l'heure. Mais une fois que le projet il est fini, il est fini. C'est vraiment extrêmement rare que tu continues de toucher des royalties après. Donc ça se fait plutôt au projet ou bien à l'heure, ça dépend okay. des chanteurs.
Oui, ouais, je vois. Ok.
Mm.
Donc ouais, voilà, une dernière question un peu légère. C'est quoi ta dernière BO qui t'a vraiment soufflé? Et t'as pas le droit de citer Expédition 33 parce que sinon c'est trop facile.
Bah non, mais c'est de la triche.
Et dernière question, enfin déjà cette première question-là et une en plus qui va avec, ce serait quelle est la licence ou le jeu de rêve pour lequel tu aimerais chanter?
Ah. Alors, si j'ai pas le droit de dire Expédition 33, je vais m'en tenir au dernier jeu auquel j'ai joué avant ça, qui est Assassin's Creed Shadows. J'ai écouté... Alors, moi, je fais partie des gens un peu chelous qui écoutent les OST avant de jouer au jeu. Mais je sais, c'est un peu bizarre. Mais quand j'ai écouté l'OST, je me suis dit... Putain, il y a quand même des trucs... En gros, il y a plusieurs compositeurs qui ont bossé dessus, mais avec des styles en plus complètement différents. Moi, jusqu'à présent, tu as plusieurs compositeurs, mais il y a quand même une harmonie, une cohérence dans les styles de musique. Là, dans Shadows, c'est ça, tu peux avoir du funk, et après, ça passe à vraiment une ambiance du Japon féodal. Et, puis ça, et en fait, ça matche trop bien. J'étais super surprise par cette OST. Elle m'a trop plu. Vraiment, ça passe du coq à l'âne, mais ça le fait, en fait. Donc voilà. Si j'ai pas le droit de dire Expédition 33, je vais dire Assassin's Creed.
Non, mais ça me va très bien. J'avais entendu des retours très positifs sur la BO de Assassin's Creed Shadow. Et moi, je suis comme toi, j'écoute plus de musique de jeux vidéo que je ne joue à des jeux. Donc voilà. Et j'écoute beaucoup de musique de jeux auxquelles je joue pas. Donc.
Ben, c'est ça. Moi, ça me donne. Mmh. En fait, c'est avec ça que je me dis est-ce que je vais jouer au jeu ou pas? Est-ce que ça me met en appétit ou pas, en fait? Ouais, je fonctionne comme ça, c'est
ouais,
un peu chaud.
Ouais, okay. Et enfin, bon, du coup, pour quelle licence tu aimerais chanter un jour?
Bah, je vais dire FF, hein. Final Fantasy, ça a toujours été mon coup de cœur, ma petite Madeleine de Proust, on va dire. Donc, et puis Nier, évidemment. Voilà.
Évidemment.
Donc,
Final Fantasy et Nier, ce sera le mot de la fin.
Ouais. Ah ouais. Ouais, là, je pense que je peux que... mourir tranquille.
Je pense qu'on aurait très envie aussi de t'entendre sur des jeux comme toi, d'un tel gabarit. Ce serait très intéressant.
Voilà.
Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour tes réponses et pour nous avoir présenté ton travail et tout ce que tu fais.
Merci.
L'entretien continue après la deuxième pause musicale. Nous écoutons Scarsinger Carmelita, composé par Christopher Larkin pour l'OST de Hollow Knight Silksong. Vous écoutez 1h des pixels sur Radio Campus Paris et nous retrouvons Marion pour la suite de l'entretien. Donc là, on vient d'écouter un morceau d'Hollow Knight Silksong, qui est un jeu qui fait un peu parler de lui récemment, pour plein de raisons. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce morceau, Marion ?
Alors, ça va être très, très très simple. Moi, que j'aime beaucoup, comme je disais tout à l'heure, écouter des OST. Il se trouve que effectivement, Silksong, ça vient de sortir. Ça a beaucoup de succès et ça s'est retrouvé dans mon feed YouTube, en fait, tout simplement. Et donc, j'ai écouté, je me suis dit, mais c'est trop bien. J'ai, encore une fois, il y a du chant un peu opératique. En plus, là-dedans, j'adore. Franchement, j'adore. Parce que je ne connais pas du tout le jeu et je pense que j'ai des trop gros doigts pour pouvoir y jouer. Très franchement, je suis un peu poupoule, mais en tout cas, la BO, elle est cool.
Bah, merci beaucoup d'abord pour cet entretien. C'était vraiment super intéressant. Comme beaucoup, je pense, je t'ai connu à l'époque des covers de FF, de Nier, etc. Donc, c'est vraiment un honneur de pouvoir se rencontrer comme ça. Bah justement, t'as pas mal parlé de Nier, c'est une série aussi que j'adore. T'as pas mal parlé de créer des langages, et justement, à l'inverse, comment est-ce que toi tu as abordé le fait d'adapter à ta manière le langage du chaos sur Nier?
C'est là, j'aurais pas pu le faire vraiment si j'avais pas poncé le jeu dans tous les sens et si j'avais pas. Ouais, là, franchement, j'aurais pas pu le faire avec un autre jeu. Même FF peut-être encore, mais ça reste extrêmement rare. Vraiment, Nier, il m'a, mais je me suis pris une grosse paire de claques quand j'ai joué à ce jeu. J'ai dû le finir au moins une dizaine de fois, et avec toutes les fins, bien sûr. Et, et donc, voilà, l'inspi, elle est venue tout de suite. Je me rappelle chaque ambiance, je me rappelle chaque... voilà, ça vient, je peux même pas expliquer, c'est venu comme ça, tout de suite.
Ça se ressent avec la pertinence des mots, etc. Donc, merci, ça fait sens, effectivement.
Oui, merci à Tizona d'avoir posé la question sur les langages fictifs, la langue du Kaonir, parce que justement, dans Hollow Knight, il y a aussi ces petits personnages qui parlent dans une langue fictive. Et par exemple, là, en ce moment, il y a le personnage de Sharma dans Silksong qui chante une petite chanson qui est devenue très populaire. Et j'imagine que pour toi, ce serait difficile d'en faire une transcréation, enfin une interprétation, puisque t'as pas joué au jeu, justement.
Et... Oui, tout à fait.
Ouais, ok.
Ouais, là, ça devient compliqué, parce que j'y connais vraiment rien à cet univers. Comme je dis, je pourrais pas jouer à ce genre de jeu, je dépasserai pas le premier screen. C'est pas possible. Mais en tout cas, la chanson, je l'ai entendue. Et c'est basé sur le français, si je ne m'abuse. Il y a vraiment des sonorités très très françaises là-dedans. C'est un peu du charabia, mais c'est trop mignon.
j'ai pas vraiment une question. Enfin, je me demandais, je suis allé, comme je connais pas du tout ton travail, je suis allé un petit peu regarder, et donc j'ai vu une des vidéos où il y a une adaptation, enfin du coup, une transcréation, j'imagine, de Princesse Mononoké.
Ouais.
Et bah, tu vois, justement, cette BO de Mononoké, elle est inscrite dans mon sang. Et j'étais un peu sceptique de me dire, qu'est-ce que ça va donner en français? Et bien, en fait, je l'ai écouté et ça a vachement marché. J'avais la chair de poule. C'est super chouette.
C'est gentil. Mais c'est marrant que tu parles de ce morceau parce que, en fait, ce que tu as entendu, c'est la deuxième version. J'avais fait une première transcréation sur ce titre. Et en fait, à l'époque, donc, je me suis basée sur le japonais. Mais bon, comme tout le monde le sait, hein, le japonais, c'est tellement cryptique, surtout dans les Ghibli, tout ça. Il faut avoir un doctorat en poésie, parfois, pour comprendre ce qui est vraiment dit. Et donc, j'avais fait un premier essai, et il y a une japonaise qui était venue me voir. Elle m'a dit, ah, c'est sympa, mais par contre, là, tu t'éloignes un peu du sens et tout. Et elle m'avait donné un petit peu des précisions sur les paroles, en fait. Et c'est comme ça que j'ai fait la deuxième version. Donc, j'ai un peu remanié ce que j'avais fait la première fois. Et donc, c'est cette version-là que tu as entendue. C'est la deuxième. Donc, elle se rapproche un peu plus. Mais encore une fois, le japonais, ça peut parfois être très compliqué. Donc, c'est quitte ou double, parfois.
Ouais, c'est super intéressant, en tout cas. Merci beaucoup de ta participation.
Je t'en prie.
Encore un grand merci à Marion et à Maxime pour cet entretien vraiment, vraiment passionnant. Merci pour ta participation et ta disponibilité.
Merci beaucoup.
Et pour glisser doucement vers la fin de cette émission, nous retrouvons Anna, du coup, pour sa chronique bimensuelle sur les communautés de fans. Anna, la parole est à toi.
Merci beaucoup. Alors, on parle souvent de jeux vidéo, on parle souvent de concepteurs et d'industries qui produisent les jeux, mais qu'en est-il des joueurs et des joueuses, et plus précisément des communautés de fans ? Donc récemment, sur les réseaux sociaux, on a vu pas mal de gens arborer les tenues des personnages iconiques du jeu Expédition 33, pour rester dans le thème. Donc en s'affichant avec des bérets, avec une baguette et une marinière, il n'en a pas fallu beaucoup plus pour donner vie aux personnages du jeu, avec sa bande originale devenue culte. Et plus récemment encore, Pokémon a organisé sur Paris un événement entièrement dédié aux communautés de fans pour justement leur permettre de se rencontrer, mais aussi pour capturer sur Pokémon Go des Pokémon spécialement disponibles lors de cet événement. Tout ça pour dire que les communautés, et plus précisément les fans, font vraiment partie des jeux vidéo puisqu'ils leur donnent vie indépendamment de leur support, et aussi parce qu'ils prolongent l'expérience de jeu à travers des pratiques comme le cosplay, les fanfictions ou encore le modding. Mais qu'est-ce que ça veut dire être fan ? Eh bien, un fan, c'est une personne qui développe une admiration pour une œuvre, ainsi qu'un attachement émotionnel à une œuvre, à une personne, à une marque. Et dans le cadre du jeu vidéo, c'est une personne qui va à la fois s'identifier, mais aussi se projeter dans l'histoire du jeu, à travers ses personnages et créer un attachement émotionnel à son univers, un univers dans lequel il va se réfugier dans les moments difficiles de sa vie. Dans le cadre de ma thèse sur l'engagement des communautés dans le jeu vidéo, j'ai justement eu l'opportunité d'aller à la rencontre des fans de certaines franchises et j'ai pu mieux étudier du coup les rouages de cette relation que les fans entretiennent avec les jeux vidéo. Donc en quatre points rapides, je vais essayer de vous faire un résumé des grands axes de la relation qu'une personne qui est tout simplement fan peut développer vis-à-vis d'une franchise, d'une marque en lien avec le jeu vidéo. Donc déjà, il faut savoir que les fans ont tous, enfin chacun, un rapport personnel vis-à-vis d'une franchise. Ce rapport-là, il est intime, il est personnel et il est profondément humain parce qu'il fait directement appel au vécu, aux émotions et à l'histoire de chacun. L'objectif, justement, de ce travail, c'était pas d'explorer la pluralité des vécus de chacun, mais plutôt de se concentrer sur le commun dans cette diversité. Et un des premiers points que j'ai pu découvrir, c'est le jeu vidéo comme catharsis. En effet, je me suis rendu compte que pour la plupart des fans, le jeu vidéo devenait un remède pour aider à surmonter des moments difficiles, pour surmonter un vécu tragique, parfois une maladie ou même le décès d'un proche. Les entretiens étaient très forts en émotion, je ne vais pas vous le cacher. Donc le jeu était décrit comme étant une bouffée d'air frais qui permettait d'oublier un quotidien parfois lourd, pesant, oppressant. C'était une sorte d'échappée dans un monde dans lequel la personne pouvait retrouver des moyens qu'elle n'avait plus dans la vraie vie ou qu'elle n'avait jamais eu, à travers du coup un avatar qu'elle pouvait mobiliser à sa guise avec des capacités surhumaines. Mais c'est plus fort encore, puisque le jeu devient aussi le miroir d'une réalité qui est parfois difficile. Et effectivement, le héros ou l'héroïne qui est parfois justement dans ce jeu en mesure de faire face à une réalité qui peut sembler très dure pour la personne derrière l'écran. Mais puisque ce héros ou cette héroïne est capable de le surmonter, pourquoi la personne derrière l'écran ne le serait-elle pas elle aussi ? Ainsi, le jeu vidéo devient petit à petit une source d'inspiration, et c'est justement le deuxième point. Le jeu vidéo comme source d'inspiration, eh bien, il faut savoir que le jeu est le fruit d'un foisonnement d'idées issues d'esprits créatifs, artistiques, et ça, bah, les fans, ils l'ont bien compris, puisque cet éventail d'idées, d'histoires et de personnages, d'univers, de mondes à explorer, avec un champ des possibles presque infini, il est assez extraordinaire. Donc comment le jeu ne peut-il pas être inspirant ? Les fans y voient là une source infinie de créations qui vont donner naissance à des univers nouveaux qui seront issus de ces histoires. À travers les fanfictions, les réécritures, le modding ou encore les tableaux, même les fanarts, le jeu devient à la manière devient une sorte de palimpseste qui se réécrit à l'infini. Un peu comme le phénix, il renaît constamment de ses cendres sous des formes diverses et variées que l'on retrouve sur Instagram, sur TikTok ou encore sur Reddit, et même sur Pinterest. Les communautés s'en inspirent et se l'approprient car ils sont en mesure d'en tirer des enseignements. Et ça nous conduit justement vers le troisième point, le jeu comme un modèle à suivre. Alors quand le jeu
ou bien ces personnages sont considérés comme des guides ou des modèles, c'est vraiment intéressant, parce que justement les fans peuvent s'en inspirer. Ils peuvent suivre ces personnes-là pour être en mesure de tirer des enseignements qui leur seront utiles dans la vraie vie. Ainsi, certains joueurs, certaines joueuses m'ont dit qu'ils pouvaient s'identifier ou se projeter complètement dans certains personnages parce qu'ils admiraient parfois leur apparence, leur force d'esprit, leur force de caractère, leur vécu ou tout simplement leur capacité à se relever dans des moments difficiles. Donc les fans veulent ressembler à leur personnage préféré, et si ce n'est pas à travers le cosplay, c'est à travers les traits de personnalité ou des enseignements dont ils vont pouvoir s'inspirer dans leur vie réelle. Et je ne compte plus le nombre de fans que j'ai rencontrés et qui m'ont parlé de leur amour du cosplay et du partage justement de cette passion avec les membres de leur communauté. Mais c'est une histoire qu'on développera une prochaine fois et qui fera sûrement l'objet d'une autre chronique. Mais pour finir en beauté, parlons communauté, car être fan, c'est justement appartenir à une communauté, et c'est notre dernier point. Le jeu, c'est une communauté, c'est une famille avant tout. Être fan, c'est justement appartenir à un groupe de personnes qui partagent un intérêt commun pour une franchise, un amour, une passion similaire à la nôtre. Être fan, c'est sentir tout simplement qu'on fait partie d'un groupe, qu'on fait partie d'une communauté dont les liens sont parfois plus forts que ceux de la famille. En fait, c'est une deuxième famille. Et combien de fans ont justement rencontré l'amour de leur vie ou encore leurs meilleurs amis à travers ces communautés ? Eh bien, être fan, c'est aussi partager sa passion, avoir envie de débattre de ses théories et de ses hypothèses pendant des heures avec des esprits qui vont avoir le même engouement et le même engagement que soi. Ce sont des personnes avec qui on va pouvoir débattre des détails les plus loufoques de nos franchises. Et vous savez, ce sont particulièrement ces détails-là que personne d'autre ne remarque, sauf les vrais. Bref, vous l'aurez compris, être fan, c'est un mélange de passion, de fascination et de mystère aussi. Et je vous propose d'explorer, justement, durant cette nouvelle année, pourquoi pas, les communautés à travers les jeux vidéo.
Un grand merci à toi, Anna, pour cette super chronique. Moi, j'en profite, vu que c'est moi qui présente l'émission, et ben je me donne la parole à moi-même en première. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire ? Rien du tout. Ça m'a rappelé mon mémoire de recherche que j'ai fait en master, puisque je l'avais fait justement sur les communautés de fans, mais en prenant comme étude de cas les fans des jeux d'Ankama, donc les fans du Crossmoz, et ça m'avait passionné, et je pense que si j'avais pu... je pense que c'est un sujet de recherche que je garderai dans le viseur, pas forcément pour produire de la recherche, mais en tout cas pour rester à jour, parce que je trouve ça tellement fascinant. Pareil, dans les entretiens que j'ai pu conduire, j'ai vraiment eu des choses qui étaient touchantes, émouvantes, et comme tu dis, que chacun et chacune a sa propre perception, sa propre relation aux médias ou à la personne, ou peu importe le sujet à laquelle la personne est fan, je trouve ça vraiment passionnant, et j'avais adoré en tout cas travailler là-dessus, donc j'ai hâte de voir ce que tu vas nous proposer du coup tout au long de l'année. J'imagine que tu vas peut-être nous proposer des petites études de communauté, je sais pas.
Peut-être.
Ok.
Ce sera la surprise.
Mais,
ouais. Ce sera un sujet passionnant, en tout cas, à explorer. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire.
Ouais.
Et finalement, on n'en finit jamais, parce que les communautés se réinventent sans cesse aussi et créent beaucoup de choses. Donc, voilà.
Ouais, et puis moi ce que j'avais bien aimé pendant mon mémoire, justement, c'était découvrir le terme de forensic fandom, dans lequel je me reconnaissais beaucoup, vraiment ce truc de fan qui va grappiller la moindre miette, aller fouiller, et apprendre des trucs comme ça, tu te dis purée, je suis pas la seule zinzin dans mon coin, essayer de chercher le moindre petit truc à mettre sous la dent entre deux saisons de quelque chose ou un truc comme ça, très très hâte de pouvoir en discuter encore avec toi.
Ouais, je suis un peu comme ça aussi. Je suis un peu en plus forensique doctorante aussi.
Bah forcément.
Donc ça marche dans les deux sens. Mais je te rejoins. Je suis pareil avec les séries qui me plaisent. Et je passe beaucoup de temps sur Reddit du coup.
Et Maxime, du coup, je te laisse la parole.
Oui, merci. Je voulais juste ajouter ce que tu disais, Anna, par rapport aux communautés de fans qui développent un attachement pour des personnages de fiction. Je trouve ça presque sain, finalement, à notre époque, de... Comment dire? Parce qu'on dit souvent qu'il faut qu'on brûle nos idoles quand on parle de célébrités réelles, parce qu'on ne sait jamais qui elles sont vraiment dans la vie de tous les jours. Et je trouve ça presque sain, du coup, de développer cet attachement pour des personnages qui n'existent pas, finalement. Et voilà, je sais pas, c'était... Et du coup, est-ce qu'on peut développer une relation parasociale avec des personnages de fiction aussi? Je sais pas, mais en tout cas, moi, je trouve ça. Je sais pas. J'aime bien dire, moi, par
C'est une bonne
exemple,
question.
que je peux pas, comment dire, j'ai pas d'idole à brûler vraiment parce que mes idoles, c'est des héros de jeux vidéo ou des héros de séries ou des trucs comme ça, quoi.
C'est pas mal. J'ai beaucoup exploré la question de la toxicité aussi. C'est vrai que la question de développer une relation parasociale par rapport à un personnage fictif, c'est une super question. J'ai pas la réponse aujourd'hui, mais je sais que la plupart des fans que j'ai, enfin la majorité honnêtement des fans que j'ai rencontrés ont un rapport très sain à leur franchise parce que tout simplement ils en tirent le meilleur. Ça leur donne du coup énormément d'inspiration pour leur vie au quotidien, mais aussi beaucoup de bonheur. Tout simplement. C'est vraiment le mot bonheur là qui m'est revenu en tête. Donc il y a de la toxicité parce qu'en fait, un fan blessé, c'est compliqué à gérer aussi. Et parfois, il y a des personnes qui sont beaucoup plus, qui ont besoin de l'exprimer et qui peuvent être très malheureusement dures dans leurs propos, voire blessantes, voire violentes. Mais la majorité du temps, heureusement, les communautés sont extrêmement bienveillantes envers chaque personne et elles réussissent à garder un climat sain qui permet à chacun de vivre sa passion, qui permet à chacun d'être heureux dans cette communauté, tout simplement. Mais très bonne question. Franchement, j'y penserai.
Oui, d'ailleurs, tu parlais des conflits dans les communautés, et c'est vrai qu'il y a souvent des conflits quand il s'agit des chips, les chips entre les personnages. Donc, moi, par exemple, je pense dans Final Fantasy VII, il y a souvent la relation entre. Je sais pas si tu connais le personnage de Cloud, Iris et Tifa. Donc, c'est un espèce de triangle amoureux, et les fans, ils sont tout le temps en train s'engueuler, de se disputer pour savoir qui est en couple avec qui. Et parfois, ça devient très sérieux, hein. Parfois, c'est vraiment, ils se menacent pour de vrai, quoi.
Ah oui, d'accord. Ah oui, ça, en effet. Ça devrait être assez intéressant du coup aussi à étudier. Je prends note.
Encore merci à toi, Anna, donc pour cette ouverture sur les communautés. Encore une fois, je réitère, mais j'ai hâte de voir la suite. Pour le segment de fin de l'émission, on se cherche encore un peu, et du coup, on a décidé de mettre de côté les habituels jeux pour vous proposer une discussion autour d'un thème. L'idée, ce sera de partir d'un article plus ou moins récent et de contextualiser la tendance ou le débat qui l'illustre, puis de complexifier un peu tout ça, parce qu'on aime bien quand c'est complexe. On n'a pas encore de titre pour la séquence, on aura peut-être un jingle d'ici la fin de saison, mais en tout cas, on a déjà un thème pour ce galop d'essai, et ce thème, Tizona, c'est...
Le Shadow Drop, donc Shadow Dropping. Du coup, oui, merci pour la présentation. Donc, je suis partie d'un article qui date d'avril dernier, donc ça, c'est pas trop trop loin. Un article rédigé par Wesley Yin Poole où on apprenait les peines de Jonas Huntington, qui est cofondateur de l'éditeur Raw Fury, qui a édité entre autres le petit jeu Blueprints ou d'autres jeux un peu moins connus comme Dome Keeper, Quest 7 Beasts, etc. La cause de sa peine, c'était l'annonce de la sortie simultanée et tout à fait inattendue de Oblivion Remastered, autrement dit, il était annoncé le même jour de sa sortie, alors que rien ne laissait forcément présager en dehors de quelques rumeurs et bruits de couloirs. Et le souci, c'est que ça sortait en même temps qu'un jeu que l'éditeur éditait, qui était Post-Trauma. Alors, a priori, effectivement, le genre n'était pas le même du tout entre les deux jeux, mais les craintes de l'éditeur n'étaient pas forcément infondées, parce que le Shadow Drop, comme on l'appelle, c'est nocif pour l'industrie. Bon, rapidement, c'est quoi le Shadow Drop? C'est un peu ce que j'ai décrit pour Oblivion. Donc en fait, c'est un phénomène. Donc dans le domaine du jeu vidéo, c'est une sortie de surprise qui soit a déjà été annoncé vaguement, ou c'est une annonce qui est suffisamment importante pour avoir l'effet similaire d'une sortie, avec un délai extrêmement court. Et l'effet de surprise, il est causé par le fait qu'il y a assez peu d'indices annonciateurs. Sachant que voilà, on est sur des sorties instantanées, on pense aux Available Now lors des conférences de JV ou au Nintendo Direct qui nous indiquent quand des jeux sont directement dispo sur le shop, soit une sortie sous un très court délai. Évidemment, eh bien, si c'est d'actualité, c'est parce que imaginez le raz-de-marée que pourrait causer un jeu attendu depuis 6 ans qui, d'un coup d'un seul, sort son bout de nez un 21 août dernier pour annoncer sa sortie 2 semaines plus tard. Alors oui, on était encore en pleine Gamescom, on était donc en Summer Game Fest, mais évidemment, ça a secoué le monde entier. Et par tout le monde, j'entends la fanbase, évidemment, mais aussi les joueuses bassinées pendant des années par les demandes incessantes de la fanbase, et aussi et surtout les médias. Oui, donc je parle bien de Silksong, hein, on a compris. Donc d'un point de vue de fan et de joueuse, c'est chouette, on a notre jeu sans l'attendre, c'est cool, franchement, c'est génial. Par contre, pour les devs et les autres studios, c'est pas vraiment la même chose. Hein. Le Shadow Drop, ça implique tout un tas de conséquences qui sont plus ou moins graves. On a des obligations de délai de date de sortie, ou des fois de l'impossibilité de le faire si c'est trop tardif. On a le monopole médiatique de la presse spécialisée, qui peut vraiment être très dommageable. Et tout ça a évidemment un effet d'invisibilisation qui est très fort, mais aussi et surtout de répercussions financières diverses, notamment tout ce qui est lié au marketing, ce qui va représenter un coût vraiment important, et d'autant plus pour des studios qui n'ont pas de soit faible, soit pas de soutien de la part de leur éditeur. Alors l'article que j'ai lu, il parle surtout donc d'Oblivion. Là, on a Silksong, mais c'est pas nouveau. Là, très très récemment, pour renfoncer le clou après Silksong, il y a eu Hades 2 qui a annoncé sa sortie 1.0 dans quelques jours. À savoir qu'ils avaient déjà fait ça en sortant Shadow Dropant leur Early Access le jour de l'annonce de la sortie l'année passée. Donc voilà, c'est pas une pratique qui est ancienne, mais c'est une pratique sur laquelle il y a pas mal d'inconnues et de dissonances entre la partie des gens qui sont contents de jouer plus tôt et des gens qui sont pas très contents parce que ça met en danger leur emploi. Donc voilà, c'était un petit peu. Je trouve que c'est un sujet qui est assez complexe, donc j'aurais bien aimé un peu avoir vos avis les uns et les unes autour de ça. Du coup, Marion, tu voulais réagir?
Oui, alors moi, le Shadow Drop, je ne connaissais pas vraiment le mot. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça, en fait. Sur le coup, quand j'ai vu ce que c'était, je me suis dit trop bien. Et puis après, j'entends ton intervention et j'avais pas pensé en fait à toute cette partie pour les devs, etc. C'est vrai que quand il y a un jeu qui sort de un petit peu de nulle part comme ça, les autres, ça peut faire de l'ombre, etc. Par contre, moi, j'en ai un petit peu marre de mon coup de gueule, hein, pardon. J'en ai un petit peu marre de me faire spoil pendant des semaines et des mois par des jeux qui vont bientôt sortir. Je trouve qu'il y a trop de marketing à l'inverse qui est fait pour certains jeux. J'en ai un peu ras-le-bol, voilà, de me faire spoil. Donc, je ne sais pas, sans parler de faire du Shadow Drop, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un juste milieu, quoi. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire, mais en soi, je te rejoins complètement sur ce côté un petit peu néfaste sur tout ce qui est développeur, éditeur, etc.
Ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être un juste milieu à trouver. Après, dans le cas de l'article, c'est vraiment sur des jeux qui forcément ont un côté très coup de poing. On sait que bon, c'est moins grave si t'as ton petit jeu, même un double A qui sort que voilà qu'un Oblivion, qu'un Silksong, qu'un Hades. Mais effectivement, il y a sur la partie inverse, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver pour communiquer. Enfin, c'est savoir comment communiquer finalement.
C'est ça.
Oui, Maxime, tu souhaitais aussi réagir?
Oui, tu parlais de Silksong et de Hades 2, qui sont deux jeux qui en fait sont dans un cas de figure similaire. C'est deux jeux qui étaient extrêmement attendus, comme tu l'as dit, et qui du coup chamboulent un peu toute l'industrie, notamment indé. Mais il y a eu d'autres cas de Shadow Drop qui, je trouve, sont des cas de figure un peu différents et que j'ai du mal comment dire, à analyser ou à comprendre. Par exemple, je pense à Hi-Fi Rush, c'était il y a quelques années maintenant, qui avait été Shadow Drop, et c'était un jeu personne n'attendait, puisqu'on n'en avait vraiment jamais entendu parler jusqu'à présent. Et ça a quand même été un petit succès quand il est sorti. Et bah c'est vrai que ça, c'est un Shadow Drop. Est-ce que ce Shadow Drop de Hi-Fi Rush, on peut l'accuser d'avoir porté préjudice à d'autres jeux qui devaient sortir en même temps que Hi-Fi Rush a été Shadow Drop? Parce que je pense pas que ça a été un aussi gros succès que Silksong ou que le sera probablement Hades 2, mais ça a forcément eu un petit impact. Et Je sais pas, après on connaît le destin un peu funeste qu'a connu le studio de Hi-Fi Rush derrière, donc malgré son succès critique et un succès commercial assez bon quoi. Mais voilà, ouais, il y a des cas de figure de Shadow Drop aussi comme ça où vraiment on ne sait rien du tout d'un jeu et je sais pas, ce sera intéressant de voir à quel point c'est différent du cas de Silksong ou de Hades 2 ou de Oblivion par exemple.
Enfin, tu me coupes un peu l'arbre sous pied, pas vraiment, mais en fait, il y a aussi un article tout à l'heure que je vous partagerai qui parle de Hi-Fi Rush, mais qui va pas forcément répondre à cette interrogation. Après, le Shadow Drop, ça reste une. C'est soit la communication extrêmement maladroite, ce qui, je pense, était le cas pour Team Cherry, parce que c'était des assets qui sont reclus chez eux, qui, je pense, n'avaient pas une très grande maturité sur la partie de communication, ce qui s'est ressenti par leur grand silence au fil des années. Mais ça reste quand même aussi une technique marketing. Dans le cas d'Hi-Fi Rush, c'était un mouvement qui a été encouragé par Microsoft. Dans son cas en particulier, on est plutôt, pour moi, dans une situation où c'était assez bénéfique, parce qu'on était sur un nouveau titre. Alors, il avait deux forces pour lui, Hi-Fi Rush, c'est qu'il était disponible instantanément sur le Game Pass, donc il était gratuit. Enfin, gratuit, non, pardon, il était accessible gratuitement pour les personnes qui étaient abonnées, et on avait quand même le studio Tango, Tango Gameworks qui était derrière. Autrement dit, quand tu as un jeu qui a l'air assez fun, qui a l'air... Il y a un peu des relents d'inspiration de Tetsu Radio, que tu as Yuji Nakamura, je crois, derrière, donc des gros noms, tu as de la curiosité d'au moins de lancer le jeu. Donc je pense qu'il y a ce côté un petit peu épidermique aussi pour des jeux qui ne sont pas très connus, où ça peut avoir de l'intérêt de se dire, tiens, c'est dispo tout de suite. Souvent, ça arrive beaucoup Nintendo, c'est souvent des démos, des jeux qui ne sont pas forcément connus, mais qui vont indiquer que leur démo est immédiatement disponible. Il y a ce côté de se dire, tiens, c'est sur le moment, puisque l'événement vient de se passer, je vais pouvoir le lancer, je vais pouvoir essayer. Parce que sinon, effectivement, une fois que si t'as pas une wishlist, si t'as pas le fait d'engager le consommateur ou la consommatrice avec ton produit, tu risques de la perdre à tout jamais. Donc je pense que ça dépend des cas de figure, effectivement. Hi-Fi Rush, c'est un peu différent des autres jeux, parce que je pense pas qu'il ait occulté d'autres jeux en l'occurrence. Donc c'est assez au cas par cas. S'il y avait d'autres personnes qui souhaitaient. Qui souhaitait réagir. Oui, Gomez, ça.
Moi, je trouve que c'est un sujet compliqué parce que, alors, je suis pas expert là-dessus, on va dire, sur la partie production, marketing, tout ça. J'ai un petit peu discuté avec des gens qui, du coup, dont c'est le métier, et j'ai regardé un petit peu à droite à gauche ce que pouvaient en dire les gens. J'ai l'impression que, en fait, il y a très peu de données. Sur les dommages engendrés pour, on va dire, d'autres studios qui, en gros, seraient un peu, on va dire, victimes, entre guillemets, du shadow dropping. J'ai l'impression qu'il y a quand même peu de façons de savoir, en fait, quel est le manque à gagner, en fait, quand ça arrive, j'ai l'impression. Et je me dis aussi que, du coup, si, en fait, on est embêté que, du coup, un jeu shadow drop, parce que, du coup, en fait, il va nous faire concurrence, on va dire, sur une fenêtre de sortie, moi, j'ai surtout l'impression qu'en fait... ça pose problème quand on reprend une formule, par exemple, effectivement, si je vais sortir un Metroidvania à la Hollow Knight, parce que ça fait 9 ans qu'il est sorti, oui, c'est sûr, ça va me poser problème que, du coup, que Silksong sorte. Mais, du coup, j'ai plutôt l'impression qu'en fait, c'est plutôt le projet lui-même de cette production-là qui a questionné, en fait. Effectivement, si je reprends une formule déjà faite, peut-être que c'est plutôt de ce côté-là qu'il y a un truc à questionner. Et en fait, j'ai surtout l'impression que, pour le studio qui pratique le shadow dropping, c'est une pratique super risquée. Parce que, là, en plus, dans ce cas-là, c'est vraiment... avec tout ce qui a pu être dit, du coup, autour de la production de Silksong, j'ai l'impression que c'est une production qui a été assez chaotique, que l'idée, c'était de faire à la base un DLC, mais qui est resté en production pendant 9 ans. Enfin, en tout cas, que ça fait 9 ans qu'il est plus ou moins annoncé, qu'il a été censé reprendre directement suite à avoir fini Hollow Knight. Mais comme il y a eu 9 ans de délai entre tout ça, du coup, le public visé, il n'est pas très bien défini. Et du coup, les gens qui s'y mettent maintenant, peut-être un peu s'y cassent les dents. Et en plus de ça, une espèce de d'opacité qui fait que, de ce que j'ai cru comprendre, il n'y a pas eu de test réalisé en amont pour pouvoir avoir des tests à la sortie du jeu, pour pouvoir se dire, enfin, que l'audience puisse se dire, est-ce que ce jeu est pour moi, est-ce que du coup, ça ne va pas le faire. Et comme il n'y a pas eu de tests qui ont été faits, parce qu'ils n'ont pas du tout pratiqué la transparence là-dessus, en fait, beaucoup de gens
l'ont pris parce que bah il fallait, parce qu'il y avait la hype, mais sans avoir pu avoir, comme pour d'autres sorties, un regard sur d'accord, mais en fait qu'est-ce que je vais acheter. Et j'ai l'impression que il y a plein d'autres choses en fait autour de ça. Enfin, ça me paraît assez compliqué. Voilà, c'était un peu mon avis sur la question.
Ouais, il y a deux points. Bah, il y a deux sujets dans ce que tu dis. Effectivement, d'un côté, il y a le côté de la typologie de jeu qui n'est pas forcément la même. C'est vrai. Il y a le producteur, directeur, enfin, un des développeurs principaux de Elysos qui a communiqué au sujet de Silksong et qui a dit que ça mettait en danger leur jeu. Bon, quand on voit leur jeu, on se dit que ça pas. Enfin, a priori, il y a quand même peu de chances que ça apporte pleinement préjudice parce qu'on n'est pas du tout sur le même type de jeu. Et en plus, Elysos, ça reste comme un double A, il y a Nacon derrière, donc ils ont quand même des outils marketing pour lutter un peu plus fort que d'autres indés. Mais il y a, voilà, il y a tout ce qui concerne les algorithmes, les Steam notamment, ce qui concerne les meilleures ventes, etc. Alors, dans sa hâte, Tim Sherry a eu le bon goût de ne pas mettre la précommande. Alors, ce qui a cassé Steam le jour de la sortie du jeu, mais qui a permis ce que, par exemple, le jeu ne figure pas dans les meilleures ventes et efface tout le reste des autres jeux avant sa sortie. Alors, ça paraît minime, mais ça reste du détail marketing dans le jeu vidéo qui peut faire la différence. Donc voilà, je suis pas non plus assez. Enfin, je travaille avec des éditeurs, etc. Mais je pense que, enfin, c'est pas des données auxquelles j'ai accès à titre personnel. De toute façon, je les partagerais pas si c'était le cas. Je pense que c'est très difficile. Un des thermomètres qu'on pourrait avoir, c'est des sites comme Steam Apps qui permettent de voir, par exemple, les périodes d'achat des personnes. Parce que, par exemple, on peut voir un jeu qui avait beaucoup de wishlist, s'il ne s'est pas vendu beaucoup au début et qui s'est vendu plus après, il y a peut-être eu un effet de... c'était peut-être une conséquence. C'est difficile de tirer des conclusions et ça, je ne suis pas certaine que les équipes de dev communiquent là-dessus. Bon, voilà, Silksong, je pense qu'on pourrait en parler en long, en large et en travers. Il y a aussi le problème du prix. Silksong est sorti à 20 euros. 20 euros, c'est très peu cher pour un jeu indé de base, et c'est très peu cher pour un Metroidvania, donc ça posait aussi d'autres problématiques par rapport à ça, de manière générale. Bon, je ne m'étendrai pas plus là-dessus. Et bon, par rapport à toute la gestation de Silksong, c'est effectivement très complexe. Alors, ceci étant dit, je suis d'accord pour ce dont tu parles sur les tests de la presse. Par contre, en fait, finalement, je trouve qu'il y a quand même un très gros effet qu'on retrouve totalement avec Elden Ring à sa sortie, où pourtant on avait des tests, on avait le passif des jeux FromSoft qui sont impossibles à faire, et pourtant à la sortie, c'est un des jeux qui a été le plus rapidement revendu dans les Micromania, etc. Les bacs étaient remplis d'Elden Ring parce que les gens découvraient que c'était pas facile, c'est pas le FromSoft le plus dur qui soit, mais je pense que c'est encore un sujet qui est assez différent. Je pense que dans tous les cas, les gens auraient acheté par hype et auraient pas forcément été le public. Je pense qu'il y a Tim Sherry est encore sur bien des égards, mais voilà, je pense que ça dévie un petit peu, donc je vais pas plus dévier sur ça. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des réactions. Mais effectivement, Maxime, ce que tu dis, c'est que le jeu est aussi dans le Game Pass. Donc c'est d'autant plus complexe de calculer l'impact de la popularité d'un jeu. Après, le Game Pass, il met à peu près tout sur un pied d'égalité quand il fait des sorties. Mais bon, ça reste un move personnellement que je trouve un peu... parce que j'aurais préféré qu'il n'y ait pas un deal avec Microsoft qui se soit fait, mais on sait que des fois c'est un peu indispensable pour certains studios, mais ça ne l'était pas pour Tim Cherry. Donc du coup, un petit peu pour revenir sur ça, nourrir les réflexions, je vous invite à lire donc un article qui vient du site Gamers Braves. Alors, c'est un article qui date d'il y a 3 ans, mais qui justement parle de la sortie du Shadow Drop de Hi-Fi Rush, and the Art of the Shadow Drop. Donc, c'est un article qui est assez exhaustif, mais qui est assez intéressant. Moi, j'ai pu y découvrir, par exemple, que la Sega Saturn, à l'époque avait été Shadow Drop, sa sortie américaine. Et j'avais trouvé ça plutôt original parce que je n'étais pas du tout au courant et ça n'avait pas ce nom-là à l'époque, mais en tout cas c'était un procédé qui existait, probablement pas motivé par les mêmes intentions. Mais voilà, j'avais trouvé ça intéressant et puis j'espère que ça vous intéressera également.
Eh ben merci beaucoup à toi Tizona d'avoir débroussaillé ce sujet bien complexe et merci du coup aux réactions qu'il y a pu avoir pour partager tous ces avis très très riches sur cette thématique. On retrouvera donc des sujets différents, divers et variés les prochaines fois. En tout cas, vous avez écouté Une Heure et des Pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Nous remercions bien évidemment Marion pour cet entretien qui a été passionnant, les chroniqueurs et chroniqueuses pour tous les sujets qui ont pu être explorés aujourd'hui, Vincent pour la programmation musicale et enfin Lazare pour la technique. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, de partager nos publications sur les réseaux sociaux et de parler de nous autour de vous. Vous pouvez également nous soutenir financièrement sur Ko-fi, cela nous permettra de continuer à produire nos programmes et à vous proposer toujours plus de points de vue sur le jeu vidéo. Et nous nous quittons sur Born Unto Trouble, composé par Bill Elm et Woody Jackson pour l'OST d'un de mes jeux favoris, Red Dead Redemption. Merci à tous et à toutes. Thank you.